en effet, GT. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Restez-nous fidèles sur l'antenne d'Hervé. Rendez-vous la semaine prochaine, 10h-11h. Salut, merci.
Mais toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Hervé, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, l'actualité de cette journée est marquée par ce chiffre, 949, et c'est le nombre de personnes touchées par le coronavirus en France, soit 336 personnes touchées en moins de 24 heures dans le pays, 16 personnes sont déjà décédées. Emmanuel Macron, le président, a appelé un nouveau conseil de défense à l'Elysée à 18h, et si le passage au stade 3 de l'alerte n'est pas d'actualité, le gouvernement prépare un plan de soutien économique pour les entreprises et pour les Français les plus impactés. Et puis, chez nos voisins en Italie, la situation ne s'améliore pas. Le pays va placer en quarantaine 11 zones très peuplées, dont les régions de Milan, de Venise ou encore de Parme jusqu'au 3 avril, ce qui représente 15 millions de personnes. Avec ses 223 décès, l'Italie est le pays le plus touché d'Europe. Au niveau international, le nombre de personnes contaminées a dépassé la barre des 100 000. 3 500 sont décédées, surtout en Chine. 92 pays sont actuellement touchés par le virus. Et c'est dans ce contexte que plusieurs dizaines de milliers de femmes sont attendues dans les rues de Paris aujourd'hui et dans 10 autres villes françaises. Tout ça dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Les organisateurs entendent valoriser la lutte des femmes. Une nouvelle étude vient de montrer qu'être parent a deux fois plus de conséquences sur la situation professionnelle des femmes que celle des hommes. Les organisatrices appellent toutes les femmes à cesser le travail dès 15h45 cet après-midi. Et à l'occasion de cette journée particulière, selon l'AFP qui a fait les comptes, il n'y a que 21% de listes conduites par des femmes lors des prochaines élections municipales, une faible augmentation de 6% par rapport à 2014. En football, Nice s'est offert le derby contre Monaco hier sur le score de 2-1. Metz s'est donné un peu d'air en battant Nîmes 2-1. Même chose pour Dijon et sur le même score face à Toulouse. Et puis Reims l'a emporté 1-0 face à Brest. Aujourd'hui, 3 matchs au programme. À 15h, Saint-Etienne, mal classé, 17e du classement, reçoit Bordeaux. À 17h, Rennes reçoit Montpellier. Et puis à 21h, les Lillois qui veulent retrouver le podium devront battre l'équipe de Lyon.
Merci de votre fidélité en ce dimanche matin sur RVE. Et avant de retrouver Chantal Ventry dans quelques instants pour l'émission La Maison Brûle jusqu'à midi, eh bien voyons ce que la météo nous réserve pour aujourd'hui, avec malheureusement un ciel très pluvieux et des maximales qui monteront jusqu'à 12 degrés.
Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RVE pour l'émission du dimanche matin, qui est La Maison Brûle. Et on fait quoi?
C'est bien ce qu'on se demande chaque semaine.
Ben voilà,
et à quoi on répond?
Absolument, on trouve des réponses aux questions qu'on se pose. Et alors là, on a décidé cette semaine... On va pas du tout vous mettre le moral à zéro, mais quand même un peu, parce qu'on va parler de consommation collaborative. En fait, la consommation collaborative, c'est-à-dire consommer ensemble, à plusieurs, et c'est né en fait avec la crise économique de 2008. Non pas qu'on se prépare une crise, hein, c'est ça que je voulais vous dire, ça n'a rien à voir, c'est juste parce que ça me paraissait bien d'en parler aujourd'hui. Alors, les pratiques de consommation collaborative ont été, à cette époque-là, donc en 2008, massivement adoptées par les Français. 9 Français sur 10, c'est quand même énorme, déclarent avoir déjà réalisé au moins une pratique de consommation collaborative. Alors, ça regroupe pas mal de secteurs. Le covoiturage, ça va du covoiturage au prêt de matériel de bricolage, aux locations de logements entre particuliers. Et donc, ces nouveaux modèles de consommation, je vois que tu m'écoutes attentivement, Mélanie, je t'en remercie, qui privilégient le partage ou l'échange de services entre particuliers à l'achat de nouveaux produits, sont une opportunité pour les consommateurs. Premièrement, de faire des économies et deuxièmement, de préserver l'environnement. Parce que moins tu dépenses, plus éventuellement tu as des chances de faire du bien à la planète. Et vous savez que c'est notre objectif premier.
Et certainement d'entrer en lien aussi.
Absolument.
Les uns avec les autres. Donc c'est ça. C'est assez vertueux comme modèle.
C'est assez vertueux. Donc, c'est vrai qu'on va aborder pas mal de secteurs, en commençant par le covoiturage, par le troc et l'échange des biens, le marché de l'occasion, l'achat groupé, le glanage, et puis aussi la ressourcerie, des choses comme ça. Les ressourceries, en fait, elles sont nées il y a 10 ans. C'est en 2010 que sont apparues les premières ressourceries.
Oui,
c'est assez récent. Dans notre région, on en a 3 à l'heure actuelle.
Il y a celle
vraiment très proche. Il y a Le Perret, il y a Saint-Arnoux et maintenant Épernon aussi. Merci Damien. C'est Damien qui m'a donné cette information essentielle. Donc voilà,
on est bien lotis, tu veux dire, dans la région.
Voilà, on est bien lotis en ressourcerie. Donc voilà, après, on va donc, en deuxième partie de l'émission, avoir un entretien avec Tanguy Neveu, qui est le responsable de la ressourcerie du Perret, qui va nous expliquer déjà pourquoi il a décidé de faire cette démarche et de s'occuper de ça, parce qu'il travaille en plus à côté, comment ça fonctionne, qui est la clientèle, qu'est-ce qu'on y trouve, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser et qui vont dans le sens de cette consommation collaborative.
Responsable.
Responsable, qui permet à la fois de faire des économies, à la fois effectivement de faire réparer des choses aussi. Alors, on a déjà évoqué dans une émission précédente, tu me le signalais tout à l'heure, Mélanie,
les Ripper Café.
Ouais. Mais c'est des choses qui peuvent se retrouver aussi dans des ressourceries. Enfin, c'est des choses qu'on trouve aussi indépendamment, mais aussi dans le cadre de cela.
Donc pour nos auditeurs qui ne seraient pas dans la région que tu viens de citer, ou en tout cas pas proche ni d'Épernon, ni d'Ipéré.
Oui.
Pour trouver une ressourcerie, il faut qu'ils aillent sur Internet et qu'ils tapent ressourcerie.fr.
Et voilà.
Donc, il y a le guide de toutes les ressourceries.
Voilà la bonne idée, en fait. Bon, voilà, très bien. Donc, par quoi on commence ? Par le covoiturage. Tu as déjà fait du covoiturage, toi ?
Jamais. Enfin, en tout cas, j'en ai fait. Si, j'en ai fait avec toi, avec des gens que je connais. Mais quand je dis covoiturage, tu vois, je pensais en m'étant inscrite sur une plateforme.
C'est vrai que...
Et ça, je ne l'ai pas fait de cette manière-là. Je l'ai fait de manière intuitive avec des gens qui habitent à proximité de chez moi en leur demandant.
Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense que la difficulté, c'est de ça. C'est de se dire, je m'inscris sur un site, je vais me retrouver avec quelqu'un que je ne connais pas, qui conduit peut-être à 100 à l'heure ou à 20 à l'heure, et les deux, ça ne me va pas. Et enfin, voilà, c'est un peu compliqué à imaginer, mais je pense que c'est une bonne solution. Moi, je me souviens qu'à une époque, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui avait essayé de mettre en place sur Poigny-la-Forêt un site de covoiturage. Alors on se disait, tu pars à quel... Enfin, un site, c'était pas vraiment un site, c'était un truc
entre lequel vous inscriviez.
Voilà, et on peut dire, moi je pars de telle heure à telle heure. La difficulté, c'est que... Tu pars à quelle heure? T'es pas sûr de ton départ. Tu vas où? Tu rentres à quelle heure? Et ainsi de suite. Il y a des tas d'éléments qui doivent rentrer en cause. Et effectivement, je suis allée sur le site de... Parce qu'il y a aussi un site comme la ressourcerie de covoiturage. Donc, sur les Yvelines. Et aujourd'hui, j'ai regardé tout ce qu'il y avait. Donc, tu peux faire Rambouillet-Tours, ou Rambouillet-Bordeaux, ou Rochefort-en-Yvelines, ou Rambouillet... Enfin, tu vois,
il y a beaucoup de possibilités.
Il y a pas mal de choix. En plus, alors, tu as la photo de la personne qui te propose. Et puis, tu as une charte aussi, quand même. Alors, si tu t'engages comme chauffeur de covoiturage, tu as quand même... tu dois être prudent, tu dois être...
Oui, il y a des règles de bonne conduite. Dans tous les sens du terme.
Tu passes pas la ligne jaune à fond la caisse, tu brûles pas les feux ni les stops, enfin tu fais un truc un peu si possible, et mais c'est vrai que c'est un peu bêta de pas faire ça, parce que nous, dès qu'on a besoin de faire une course, on fait 10 km 20 km, CO2, machin, essence, tout ça, c'est pas,
En fait, on peut imaginer que c'est plus facile quand tu es astreint à des horaires réguliers.
Ouais.
Et que tu vas, par exemple, au travail, donc tu sais que tu y es à telle heure. Donc pour ça, les choses qui sont planifiées. C'est quand tu arrives sur des choses qui sont peut-être de l'instantané ou de la décision de dernière minute, où là, c'est compliqué d'être sur du covoiturage. Ça nécessite quand même une petite anticipation.
Bah oui, mais même quand tu fais, Rambouillet-Bordeaux, t'as intérêt à anticiper tout petit peu quand même.
Mais c'est pareil que dans le cadre des départs en vacances, c'est ce que j'allais te dire. Mais
c'est ça.
Le côté, tu vois, Rambouillet-Poigny pour aller faire tes courses, peut-être que si tu le cales à un moment de ton emploi du temps qui est un peu vide, Le risque, c'est de... Bon, après, c'est de tomber toute seule sur le bord de la route, genre.
C'est pas du coup... Tu vois, ça s'appelle de l'autostop après, tu vois.
C'est ça.
C'est une autre formule. Mais bon, enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que le covoiturage, ben, c'est bien que ça se développe. C'est bien que dans nos régions, ça puisse exister. Mais effectivement, la difficulté, c'est bien aussi de se dire, bon, tous les jours, j'ai besoin d'une voiture où je peux emmener quelqu'un entre 7 et 8... Mais après, il faut trouver la même chose pour le retour, les mêmes horaires, les mêmes, enfin voilà quoi.
Non mais en fait,
c'est quelques contraintes, voilà. Mais voilà, c'est tellement bien pour la planète.
Mais c'est ce qu'on voit tout au long de cette émission, c'est que préserver la planète, c'est juste essentiel.
C'est notre
mais c'est vrai que c'est ça credo. Nécessite un changement.
Ah oui.
D'attitude et une responsabilisation aussi différente.
Je tout pense à fait.
Un autre comportement au quotidien.
Un autre comportement et parfois quelques contraintes supplémentaires.
Oui. Dans des vies qui peuvent être parfois déjà très contraintes. En termes.
Tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc on a fait un très joli petit speech sur le covoiturage. Je pense qu'on a convaincu absolument tous les auditeurs qui nous écoutent. Même Damien, il a l'air super content de se dire...
D'ailleurs, il rentrera avec nous.
Il va pas dans la même direction, mais on s'en fout. En fait, c'est ça le truc. Après, tu marcheras un peu, ça va te faire du bien. Aujourd'hui, il ne pleut pas. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Donc, voilà, le premier aspect, voilà, le premier élément dont on parlait, c'était voilà, le covoiturage. C'est quand même c'est une pratique, il faut le savoir quand même, en forte hausse, hein, le covoiturage. Selon le Crédoc, 32% des Français ayant eu recours en 2018. La mobilité partagée permet de réduire l'impact environnemental des transports. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de tripler le nombre de trajets réalisés en covoiturage pour atteindre, tiens-toi bien, les 3 millions d'ici 2024. Bon, on a encore 4 ans, enfin 3 ans et quelques.
En même temps, quand tu vois le succès d'acteurs comme Blablacar, on imagine bien que
c'est vrai que
c'est une pratique qui gagne de jour en jour.
Absolument. Alors, je vous rappelle pour ceux qui seraient intéressés, qu'il y a un site qui s'appelle www.rt78-covoiturage-fr. Voilà, c'est dit. Le marché de l'occasion, ça aussi, ça se développe énormément. Donc, j'ai aussi quelques chiffres à vous donner. 46% des Français déclarent avoir acheté un produit d'occasion sur des sites internet comme Le Bon Coin, pour ne pas le citer, en 2018, contre, tiens-toi bien, en 1998, 25% seulement. Donc, Le Bon Coin, c'est vraiment un site qui est en progression et c'est vrai que... On en parle beaucoup. T'as déjà acheté des choses sur Le Bon Coin ?
J'en ai acheté, j'en ai vendu, ouais.
Ah ouais ? Et ça fonctionne bien ? J'ai pas encore fait, moi.
Si, si. Ça fonctionne très bien, ouais.
Et tu... Quel genre de produit, si c'est pas indiscret ?
Alors, c'était des produits, c'était des meubles pour une chambre d'enfant.
Ouais.
Quelques vêtements. Voilà. Et après, moi, ce que j'ai acheté, c'était aussi du mobilier.
D'accord. Et
non, voilà. C'était conforme. Non, écoute, tout s'est bien passé. L'expérience a été
d'accord. Donc tu,
positive.
Tu invites les gens à le faire et à suivre.
Alors après, tu sais, il y a un tel éventail. C'est vrai que tu as Le Bon Coin quand tu cherches quelque chose spécifiquement à un moment donné.
Ouais.
C'est un peu comme l'histoire des transports. Ensuite, tu as ce qu'il y a à côté de chez toi, comme les vides-greniers, les vides-maisons, les brocantes. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, les ressourceries, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des solutions pour acheter d'occasion. Elles sont quand même assez... assez nombreuses. Ça dépend effectivement du type d'achat que tu veux réaliser et du temps que tu te donnes pour le faire aussi.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'Internet est quand même un outil là-dedans qui est assez génial. C'est ce qui a quand même permis la diffusion et la généralisation de toutes ces choses, si tu veux. C'est vrai que tu dépasses le local avec Internet.
Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est vrai. Et d'ailleurs, effectivement, je lisais un article dans lequel on disait que les grandes surfaces aujourd'hui qui commencent à être un petit peu en difficulté parce que. Mais il y a moins de ventes. Leur principale concurrence, c'est Internet. Bon, alors il y a aussi les petits commerces de proximité qui reprennent en ce moment, mais Internet, c'est voilà quoi. C'est quand même. Alors, il y avait un autre aspect aussi sur la consommation collaborative, c'est l'achat groupé. Alors, nous, on fait ça avec le mazout.
Mmh. C'est vrai.
Achat groupé de mazout. Tu as besoin de mazout, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, on a un camion qui vient que pour les clients.
Le groupe de clients qui s'est inscrit.
Voilà, et ça coûte moins cher. Mmh. Voilà, bah forcément, parce qu'ils font qu'un trajet au lieu d'en faire. Donc ça intéresse tout le monde. Alors, j'ai pas d'autres exemples d'achats groupés.
Organisés, en tout cas au sein de notre village, non ? Moi, celui-ci dont j'ai connaissance.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu pourrais l'imaginer pour d'autres choses.
Quoi, par exemple ?
Alors, j'allais te dire, même pour des. Si tu fais. Enfin, alors après, tu reviens au principe. Enfin, ça serait le principe de la map, mais oui. Tu pourrais imaginer. Voilà. Donc après, c'est organisé par une structure.
25 poulets.
Voilà. Mais pourquoi pas ? C'est de la commande en gros.
Ouais. Ouais, ouais, oui.
Mais
oui.
Bon, mais après, c'est déjà fait par le biais d'une.
C'est ça. Je me demande si en dehors de l'alimentation et du. Je vois pas très bien.
Et de l'énergie, ouais, du fuel. Ouais.
Je vois pas très bien, mais bon, on va sûrement trouver. Hein. Alors, il y a quelque chose qui se développe aussi, mais alors là, ça, pour moi, c'est un mystère. Enfin, j'ai jamais fait ça. C'est la location entre particuliers. Tu sais ça ?
La location ?
Oui, c'est ça. Tu peux louer ta voiture, tu t'en sers pas pendant 15 jours, tu la loues. Ton appart, tes outils.
L'appart, c'était quand même les Airbnb, oui. Initialement. Ouais, avant que des investisseurs
se mettent sur le
coup. C'était quand même ta maison que tu proposais.
Ouais.
C'est ton appartement.
Mais ça fonctionne. Ben, c'est-à-dire qu'effectivement. Quand c'est repris comme ça par une grosse société, j'entendais une pub tout à l'heure, c'est vrai qu'ils te font des garanties, regarde qui sont les consos, ils te donnent des conseils pour machin, enfin tu vois, c'est plus encadré que si toi tu te dis, bon, allez, hop.
Oui, quand tu le fais toi tout seul.
Je loue à monsieur ou madame Intel, je sais pas qui ils sont, je n'ai pas vraiment de garantie, enfin bon, après il faut se débrouiller et c'est plus.
Oui, c'est plus protecteur certainement, pour, okay. Et pour les uns et pour les autres. Mais. Ah ben là, j'ai essayé.
Oui. Oui.
Non, j'allais dire que l'usage aujourd'hui prime sur la propriété.
Oui.
On est dans une économie d'usage en fait.
Ouais. Absolument. Voilà. Et ce sera le mot de la fin pour cette première partie.
Au revoir.
On vous retrouve dans quelques instants.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. Je vole, je vole.
À Rambouillet et sa région. Cool Pare-Brise, votre professionnel de la réparation rapide de toute fissure ou du changement de votre pare-brise. Pour son ouverture, Cool Pare-Brise vous offre le plein de carburant ou le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule. Et ce n'est pas tout, Cool Pare-Brise vous offre votre franchise. Donc, zéro dépense pour votre réparation, fissure ou remplacement du pare-brise. Cool Pare-Brise. Du nouveau à Rambouillet et sa région. Cool Pare-Brise, votre professionnel de la réparation rapide de toute fissure ou du changement de votre pare-brise. Pour son ouverture, Cool Pare-Brise vous offre le plein de carburant ou le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule. Et ce n'est pas tout, Cool Pare-Brise vous offre votre franchise. Donc, zéro dépense pour votre réparation, fissure ou remplacement du pare-brise. Cool Pare-Brise, 14 rue Gustave Eiffel, à Rambouillet. Téléphone 09 87 01 23 82, 09 87 01 23 82. www.coolparebrise.com.
La semaine dernière, mon smartphone m'a lâché. J'étais en panique car c'est mon outil de travail. Et en tant que professionnelle, je n'ai vraiment pas le temps de courir les boutiques de réparation. Mais la chance est avec moi, car j'ai discuté avec un ami qui est satisfait de la réparation de sa tablette effectuée par un professionnel de la région. Mose Réparation. Ni une ni deux, je le contacte. Et il s'est déplacé rapidement pour dépanner mon téléphone. Et j'avais le choix, à domicile ou au travail. Le tout à des conditions très attractives. Bref, j'ai gagné un temps appréciable. J'ai payé un prix raisonnable et j'ai été dépanné rapidement, avec le sourire. Ma solution dorénavant, c'est Mose Réparation. Avec un Z, sans hésitation. Professionnel ou particulier, pour un devis et un déplacement offert, www.mobileonthesite.com.
Préparez l'arrivée des beaux jours et surtout celle des moustiques. Du 2 au 28 mars 2020, la Bassienne de Menuiserie vous offre la moustiquaire incorporée pour l'achat de volets roulants solaires. Et bénéficiez de 20% de remise sur une large sélection de produits. Fenêtres, portes d'entrée, volets, stores, portails et portes de garage. Venez vite en magasin découvrir nos produits, les devis sont toujours gratuits. À Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom au 27 rue de Chartres, au Perret en Yvelines. Voir conditions en magasin, offre non cumulable avec toute offre en cours.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie Béchouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie Bijouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Bonjour Monsieur Neveu, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de RVE pour parler effectivement de la ressourcerie du Pered que vous dirigez, si j'ai bien compris.
Non, mais vous inquiétez pas.
D'accord.
Bon. Non, moi, je, c'est, comme c'est associatif et collaboratif, on n'a pas de direction.
Ah d'accord, ok, très bien.
C'est pas grave.
Voilà. Non, bon, alors je voudrais savoir déjà, par rapport à vous, c'est une démarche particulière de travailler pour une ressourcerie. Dites-moi ce qui vous a amené à faire ça.
Alors, à titre individuel, vous m'entendez ?
Oui, oui, je vous entends très bien.
Non, j'ai eu un petit souci de... à titre individuel et personnel, moi, ce qui m'a amené à la ressourcerie, c'est parce que j'ai fait des études concernant, de manière générale, tout ce qui est soutien au projet à caractère solidaire.
D'accord.
Après, et du coup, le projet ressourcerie, me concernant, était un projet de classe à l'origine. Donc, il a débouché ici, et chacun ici à la ressourcerie, c'est pas chacun, mais quelques-uns avaient déjà un projet similaire, plus ou moins développé, avec plus ou moins les compétences logistiques, ou techniques, ou administratives, ou pas. Et en fait, le projet ressourcerie, du CHU d'Yvelines, on va dire, est bien né, notamment grâce au fait que plusieurs personnes ont aggloméré, mutualisé leurs compétences autour de ça. Et donc, du coup, à titre personnel, au début, je dirais que c'était vraiment une appétence pour le développement durable et ce genre de choses. Mmh. Mais au fur et à mesure, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour moi, la ressourcerie, c'est ce qui nous permet de faire de l'écologie et du social.
D'accord.
C'est très rare, en fait, dans la dynamique. En général, l'écologie est compliquée et doit être complémentaire, mais ne l'est pas assez,
en quelque sorte.
Et donc, voilà. Mmh.
D'accord, très bien. Alors si mes informations sont bonnes, parce que la première n'était pas bonne, mais peut-être
non,
que celle-là sera la bonne, ça fait à peu près 10 ans que c'est né les ressourceries.
Les ressourceries en général, les ressourceries, on va dire les premières, en théorie, c'est Emmaüs. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors, en théorie, je dis bien parce qu'au final, ils n'ont pas l'appellation ressourcerie, mais au fur et à mesure, ils sont approchés du concept de ressourcerie avec le temps. Les ressourceries, en tant que mot et en tant que réseau, le réseau, il va avoir 20 ans en 2020, mm-hmm. le réseau des ressourceries.
D'accord.
Et on va dire les ressourceries, vraiment, les premières à utiliser ce mot-là ont une quarantaine d'années et viennent de Lille et ses alentours.
D'accord, ok, très bien.
Et alors, une ressourcerie, c'est quoi exactement ?
Alors, une ressourcerie, c'est un établissement qui récupère, on va dire, tous les objets que les gens ne veulent plus garder mm-hmm. et qui les revend à prix solidaire ou les donne à des associations partenaires ou les recycle. Ça, on va dire que c'est la pratique.
La base.
Mmh. Voilà. Après, une ressourcerie, si elle s'appelle ressourcerie, elle fait du coup partie d'un réseau qui est le réseau des ressourceries, qui l'oblige à 3 choses au niveau du cahier des charges du réseau. D'abord, c'est de tout accepter. Tous les objets.
Qu'ils soient abîmés ou pas abîmés, c'est ça ? Enfin, abîmés en état de marche ou...
Qu'ils soient abîmés ou pas abîmés, oui. On aura tendance à dire que c'est pour ça qu'une ressourcerie doit être connectée, du coup, au principe de la déchetterie aussi. Le concept de ressourcerie, forcément, est vraiment connecté avec le principe du recyclage derrière. Nous, on réemploie les objets et derrière, on peut les recycler.
D'accord.
Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, en effet, ça m'amène au deuxième point. Une ressourcerie accepte tout et doit aller au maximum vers l'objectif de réemployer ou réutiliser les objets.
Mmh.
Et enfin, en troisième point, une ressourcerie est tenue de faire de la sensibilisation à la réduction des déchets et en général à l'objectif de réduction de la consommation des ressources, quoi. Donc, en général.
D'accord. Alors, la question qui vient maintenant, c'est la majorité des choses que vous recevez, c'est quoi ?
Tout.
Ça va de quoi à quoi alors ?
Nous, on récupère tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Tout en sachant qu'il y a des objets un petit peu plus prépondérants et on va dire plus problématiques, qui sont par exemple les textiles, donc les vêtements.
Oui.
Et derrière, il y en a d'autres aussi qu'on se douterait moins, mais par exemple le livre et le papier. Pourquoi ? Parce que le textile, il y a des chiffres nationaux qui existent, mais on sait très bien qu'environ on jette 80%. L'année d'après, le textile qu'on a acheté une année. Donc du coup, c'est-à-dire que nous, on en récupère énormément, mais malheureusement, on ne peut pas en réemployer autant. Donc ce qu'on a, on peut en réutiliser qu'environ un quart. Le reste part soit au recyclage, soit en réemploi, mais du coup à l'étranger ou pour une entreprise qui s'appelle GBTEX, qui est pas très loin d'ici, qui est à Vernon dans l'Eure, qui les récupère et les retrie derrière. l'idée, c'est que, même chose, par exemple, le livre, c'est un autre problème, parce que tout le monde achète le Don Juan de Molière, ou le... je réutilise les exemples que j'ai utilisés à la R2, donc j'essaie de trouver un autre truc. Mais le j'en sais rien, moi, le Charles Baudelaire et compagnie, pour l'enfant, et à chaque fois, à la rentrée, il revient. Et on se rend compte qu'on récupère souvent, des fois, 36 fois les mêmes livres. Ou parce que les livres aussi, on avait fait des éditions, notamment les éditions France Loisirs, où on a envoyé des livres à tout bout de champ à des gens qui, du coup, ne les gardent plus ou n'ont plus d'intérêt à les lire. Donc ça fait partie, on est un peu moins, enfin le livre est vraiment un petit peu moins connu comme problème, on connaît déjà le textile, mais le papier aussi a vraiment été un truc qui a été surproduit par rapport à la réalité, d'où l'intérêt notamment de la mutualisation avec les bibliothèques aussi, ou avec les cafés bibliothèques, ou ce genre de choses, quoi.
D'accord. Alors, il y a une autre question aussi, qui sont les donneurs?
Tout le monde, de la même manière, un peu tout le monde. À l'heure actuelle, on a principalement des particuliers. On va dire sur la dynamique, c'est plutôt des particuliers qui donnent, parce que c'est ce qu'on a le plus facilement comme possibilité de faire au début, c'est-à-dire on commençait par des particuliers. Les ressourceries qui commencent à avoir un petit peu d'âge ou travaillent et du coup au fur et à mesure avec des collectivités, donc par exemple ils récupèrent les ordinateurs du collège qui sont en train de changer, les tables de tel endroit, et aussi avec les entreprises.
D'accord.
Donc les entreprises qui, par exemple, nous par exemple, on travaille avec des entreprises qui ont des invendus de produits non alimentaires. Prenons un exemple, j'en sais rien, un supermarché du coin, la jardinerie. La jardinerie, une fois que les plantes ont passé, on va dire, l'âge, ce qui arrive, c'est que souvent, on en récupère beaucoup. Donc souvent, nous, on les sauve un peu, on les renourrit d'eau, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que les gens les prennent quand même. Et donc, du coup, ce qui arrive, c'est qu'en mai-juin, on a beaucoup de jardinerie qui peut arriver de certains supermarchés locaux. Nous, d'un point de vue éthique, c'est pas très grave, ça nous gêne un petit peu quand même, parce que ça nous fait être un peu la bonne conscience de la consommation du supermarché. Mais toujours est-il que ça permet sur le moment de faire en sorte que il est vrai des produits entre guillemets des produits si on parle en commerce, c'est un commercial un peu différent que la moyenne du coup parce que les plantes les gens ne les donnent pas mais du coup ça permet voilà à la ressourcerie de vivre parce qu'il y a des plantes, ça permet aussi d'avoir des produits neufs alors que d'habitude on n'a que de l'occasion donc ça permet voilà de faire des choses un peu différentes. Et surtout de redonner une vie à ces objets-là, faire en sorte qu'ils ne soient pas morts avant même leur véritable vente, quoi, en quelque sorte.
Est-ce que vous pouvez chiffrer la quantité d'objets divers que vous recevez chaque année?
Alors oui, on peut chiffrer. Nous, on chiffre en poids. On sait combien d'objets sont réutilisés dans une année, ou sont recyclés, ou sont gardés. Pour un chiffre global, depuis le début de la ressourcerie, du coup de l'association Ressourcez-vous, depuis mai 2017, il y a eu environ 570 tonnes donc de traités. Et environ 40% en réemploi, ça veut dire environ 200-220 tonnes en réemploi.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a 220 tonnes d'objets qui ont retrouvé une seconde vie à l'action de la ressourcerie. Sur une année, c'est un peu compliqué, parce que comme on est en évolution au fur et à mesure, c'est compliqué à mesurer, puisque d'abord il n'y en a eu qu'une boutique, puis deux, puis trois. Là, sur un mois, je peux vous dire que grosso modo, sur un mois, sur les trois boutiques solidaires, on est environ à une trentaine de tonnes, dont environ 12 à 15 réutilisées. Trentaine de tonnes traitées et 12 à 15 réutilisées.
C'est énorme, hein.
Donc du coup, on peut imaginer entre 300 et 400 sur une année, quoi.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ça va en grandissant? Alors déjà, maintenant, il y a trois ressourceries dans la région. Est-ce que vous avez l'impression que le succès va grandissant en ce moment?
Oui, d'une certaine manière, un peu grandissant. Sur le Perret, où, par exemple, on a atteint notre rythme de croisière, disons. Donc, on sait que ça va pas aller en augmentation fulgurante. Et on a des périodes, entre guillemets. C'est triste, mais c'est pareil. Nous aussi, il y a Noël, il y a des... Oui. Voilà, donc on a aussi une sorte de saisonnalité aussi. On sait que les mois de janvier et février sont pas des mois très intéressants, entre guillemets. L'idée pour derrière tout ça, c'est que, oui, ça va en grandissant. le sentiment, c'est que on est enfin assez bien connu dans les territoires où on a une action. Il n'y a qu'à voir notamment les programmes des élections municipales, puisque tout le monde veut une ressourcerie maintenant, notamment à Rambouillet, puisque personnellement j'ai à Rambouillet. Donc du coup, notre action a été reconnue d'une certaine manière. On a aussi une convention avec le syndicat de déchets, donc ce qui fait que oui, on est reconnu pour ce qu'on fait, et les gens nous connaissent de plus en plus, et ont tendance à venir, on va dire, de manière régulière et de manière organisée. Il n'y a pas de...
Ah oui, c'est des clients fidèles, alors.
Ah
enfin,
oui,
c'est oui. Qui apporte et qui achète. Enfin, qui remporte.
Oui. Non, mais complètement, on a des clients très fidèles, on a quand même des gens qui sont capables de... Voilà, là, c'est ce qu'on appelle, nous, on va dire les chineurs, hein, qui sont capables de faire les trois boutiques solidaires dans la même matinée ou journée. On a des gens qui sont capables de venir le mercredi à tel endroit, le samedi à tel endroit, puis et puis on reconnaît quand même qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, donc qui reviennent dans la clientèle, on va dire, mais c'est pas trop dans les bénéficiaires. On a quand même un certain nombre de personnes fidèles, que ce soit pour certains par conviction, d'autres par commerce aussi, hein, parce que le cachet, on a toute la partie aussi des personnes qui font commerce des objets récupérés et qui du coup les revendent ou les remettent en état ou les revendent à plus grand prix ou cherchent un peu l'objet rare. Et comme nous, on est tenu de essayer de les vendre à prix solidaire, on va dire, en général, ils savent qu'ils en feront un meilleur prix peut-être en le vendant à notre endroit. Il y a des gens qui vont par exemple travailler sur Paris et qui vendent du coup des objets sur Paris. Et donc,
commerce équitable. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, comme nous ne sommes pas une brocante et qu'on ne vend pas à prix brocante, et que du coup, l'objet final, dans le fond, c'est pas que l'objet nous rapporte de l'argent, mais l'objet, c'est que... L'objectif, c'est que l'objet revive. Donc du coup, on a quand même des choses qui passent au travers des mailles du filet, qui sont des très belles choses que les gens achètent à très bas prix. Si elles passent pas au travers des mailles du filet, chez nous, elle sera toujours un quart moins chère que sur le prix internet, par exemple.
Quand vous avez un
prix, je sais pas moi, un caméscope, on va dire vintage, années 60, chez nous, il sera peut-être à 50€, là où sur internet, on le trouvera à 200. Prenons un exemple. Il sera toujours plus cher que quelque chose d'autre dans le magasin, mais il sera quand même moins cher que le prix commercial pour l'objet d'un point de vue brocante, quoi.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous fixez un prix solidaire? Selon quels critères?
On n'a pas de critères très définis, on va dire. Il y a des valoristes, donc des personnes qui travaillent au sein de la ressourcerie, qui ont une connaissance, on va dire, globalisée sur les objets. C'est-à-dire qu'ils connaissent à peu près toutes les matières, à peu près tous les styles, à peu près tous les types de meubles, et qui ont travaillé là-dessus depuis plusieurs années, et qui du coup mettent un prix, mais qui savent être un prix quand même plus bas que le neuf. Il n'y a pas de catégorie ou de critères très définis, dans le sens où il y a tellement que je ne pourrais pas vous dire tous les critères des objets. Il est vrai que s'il y a un doute, on se réfère beaucoup à regarder sur Internet, sur les prix sur Internet. Et souvent, on met un prix deux fois, quatre fois moins cher, comme je disais tout à l'heure, au quart du prix.
D'accord.
On n'a pas de critères purement définis, mais au cas de doute, les collègues regardent sur Internet. Oui.
Alors, je voulais évoquer aussi la réparation des objets que vous récupérez. Vous avez donc quelques spécialistes, parce que bon, selon l'objet, si c'est un magnétoscope ou un meuble du 15e, c'est pas la même pas le même travail, c'est ça?
Alors oui, complètement. Comme on est on va dire associatif, il y a aussi beaucoup de bénévoles, et ces compétences là sont principalement fournies par des bénévoles.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en gros, la partie, on va dire, salariée et la partie logistique et administrative et mise en place très brute. C'est-à-dire que nous, on s'occupe, moi par exemple, je m'occupe de tous les papiers, mon collègue va s'occuper de faire en sorte de trier les objets au brut, mais dès qu'il s'agira d'être un peu plus fin dans la réparation, de prendre vraiment le temps sur des objets, comme ça prend du temps, justement, de fait, c'est une partie qui est assez bénévole.
D'accord.
Donc on peut compter chez nous environ une quinzaine de réparateurs bénévoles, qui viennent assez régulièrement, on va dire une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, et qui du coup, dans les boutiques solidaires, s'attardent sur les objets qui sont arrivés depuis le local de tri. Et du coup, ils prennent le temps de réparer, de tester s'il y a un besoin. En général, le local de tri qui est situé, du coup, à Opéret, ne répare pas les objets, mais les envoie dans les boutiques solidaires diverses, donc ce soit Épernon, Opéret ou à Saint-Arnoult, mmh. et sur place, les réparateurs bénévoles prennent le temps, dans les locaux, de regarder un peu plus profondément et de trier les objets, du coup.
D'accord.
De réparer, pardon.
Je vais être obligée de mettre fin à cette conversation, mais j'avais encore une question à vous poser. J'aimerais bien vous la poser dans 3 minutes, ça vous va?
Ah oui, si vous voulez.
Ok.
Oui, complètement.
D'accord. Ben, restez à l'antenne et puis je vous poserai une dernière question après la pause. Merci beaucoup.
De rien.
Ça fait 3 mois que je patiente, 15 jours que je remonte la pente. J'ai mal à mon dos encore un peu, mais ça va quand même mieux.
Alors je sais pas mais j'avais lu que la loi pour la transition énergétique avait prévu pour 2020 une diminution de 10% de la quantité globale de déchets produits. Est-ce que vous pensez que cet objectif à votre mesure a été atteint
pour 2020? Elle avait une transition de 2015, du coup cette loi de 2015.
Oui.
Je crois pas. Je pense pas. En tout cas, on en est au balbutiement de la réduction des déchets, pour être tout à fait honnête.
D'accord, c'est ça que je voulais vous entendre dire, oui, effectivement.
Voilà, notre action, par exemple, pour le concept ressourcerie, on va dire qu'il y a 500 structures en France, environ, hein, en fonction des... Alors, ressourcerie, il y en a 150, mais sans compter Emmaüs, Recyclerie et compagnie, il y en a 500 environ.
D'accord.
Et on estime qu'il pourrait y en avoir 3000 dans tout le territoire français sans être, on va dire, sans se marcher sur les pieds au niveau du réseau. Bon, déjà, on a de l'espace. Et aujourd'hui, je crois que le pourcentage réemployé, tout compris, en comptant même les brocantes, les choses qui, ce qu'on appelle le réemploi, mais économique, c'est-à-dire les gens qui font vraiment des sous dessus, c'est même pas 2% du flux des déchets.
Donc, ah oui.
Je crois que c'est 0,5 exactement. Et l'objectif, c'est de porter à 2%.
D'accord.
D'ici 10-15 ans. Nous, on a essayé dans les lois, notamment sur l'économie circulaire, de faire en sorte, au niveau du réseau, de favoriser la mise en place de soutien pur et dur à notre action associative, parce que c'est des actions qui sont coûteuses et qui sont beaucoup plus coûteuses que ça rapporte, puisque c'est vraiment coûteux, en fait, de prévenir davantage que de jeter. Ouais. Et ben, on a eu du mal à avoir été écoutés, et pour le moment, c'est encore, même au niveau de la loi, encore pas assez à notre avantage. On est obligé de faire appel à des dispositifs, notamment sociaux, au niveau de l'emploi, davantage qu'au soutien à notre action en tant qu'action environnementale. Mais bon, après, j'ai envie de dire, oui, on est encore pas assez, on va dire, ambitieux sur ces objectifs-là. Et malheureusement, nous, on empathise sur notre développement. Au niveau de notre structure, on est sans cesse à la course à la subvention, à la course au financement, parce qu'il est impossible aujourd'hui. Nous, c'est 40% du budget, en fait, le financement public. Donc, c'est pas parce qu'on veut absolument être financé par le public, c'est qu'on considère comme en tant qu'action d'intérêt général, il faut qu'on ne peut pas, enfin, on ne fait pas de sous sur ce qu'on fait, donc on ne peut pas, voilà. Donc, c'est vrai qu'on attend un peu, en fait, encore le financement public, mais dans le sens où, pour terminer là-dessus, où il a tendance un peu à se désengager de manière générale, et aujourd'hui, en tant qu'association sur notre thématique, on fait de l'insertion sociale, en plus, les personnes qui travaillent on est une douzaine à travailler à la ressourcerie. Sur la douzaine, il y en a 8 exactement qui sont en contrat d'insertion ou aidés. Ça veut dire qu'en gros, c'est des personnes qui n'auraient pas eu de travail. Qui auraient eu peut-être un travail, mais qui, du coup, nous, on a été aidés pour pouvoir faire en sorte qu'ils travaillent.
Oui.
Et du coup, ces personnes-là, 12 personnes en 2 ans d'existence, c'est énorme. C'est-à-dire que, on aurait pu le faire en 3-4 mois si on avait eu réellement, on va dire,
Moyens. Ouais.
En fait, c'est pas que c'est moyens, c'est-à-dire qu'en gros, c'est compliqué, on va dire. On marche sur des œufs en tant qu'association d'intérêt général. On est toujours un peu très inquiet par rapport à notre modèle de fonctionnement. Mais bon, ça c'est comme ça. Je prêche, on va dire, pour toutes les associations employeuses, quelles qu'elles soient, qu'elles fassent du social ou de l'environnement en général.
D'accord. Ouais. Très bien. Bon, bah, écoutez, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites.
Merci.
C'est vraiment super. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des choses. Mélanie, tu voulais...
Oui, je voulais peut-être rappeler les informations pratiques, les horaires d'ouverture.
Vous voulez que je vous les rappelle ?
Oui, si vous le voulez bien, volontiers.
les boutiques solidaires, du coup, de l'association Ressourcez-vous, qui est une ressourcerie, de fait, sont ouvertes, du coup, le mercredi et samedi, de 10h à 18h. Opéré en Yvelines, à Saint-Arnoult en Yvelines et à Épernon. Dans les trois villes en question, on peut aussi faire des dépôts, mais de 10h à 17h le mercredi et le samedi, à Épernon au même endroit. Opéré, par contre, il faut aller dans un espace qui est à la Marolou, qui est environ à 5 minutes de la boutique. Et à Saint-Arnoult, on pourra le faire d'ici 2 à 3 semaines, il faut juste qu'on achète un véhicule pour pouvoir faire en sorte que ça revienne sur ensuite le local de tri. Moi, je vous invite en tout cas, quoi qu'il en soit, à pas hésiter à revisiter le site internet où tout ça est indiqué assez précisément.
D'accord.
Donc c'est ressourcez-vous, tout attaché, ressourcevous.org.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci
Tanguy.
Avec
et
plaisir.
Puis à une autre fois, j'espère. Bon courage.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, voilà, on continue, parce que, effectivement, maintenant, on continue toujours sur notre consommation collaborative, pardon. Et je crois que toi, tu t'es intéressé particulièrement au glanage.
Bah oui, puisque là, on parle effectivement de réutilisation, mais il y a aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et effectivement, les nouveaux glaneurs qui sont au secours des aliments perdus et gaspillés.
Parce que c'est une pratique très ancienne, le glanage.
Oui, alors je vais juste redire quelque chose. Pourquoi ça a un intérêt là? C'est qu'en France, il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui sont perdues et gaspillées chaque année.
Oui, ça c'est quand même moche.
Et d'un bout à l'autre de la chaîne, ce qui représente un tiers de la production. Donc effectivement,
énorme,
ça paraît énorme. Tout à fait.
Ah, oui, oui.
Donc le principe du glanage, c'est effectivement de sauver des aliments qui sont destinés à finir à la poubelle, dans les champs, les potagers, les vergers, ou encore dans les rebuts de la distribution. Donc ça part vraiment de l'endroit de la production, enfin de là où poussent les légumes, jusqu'à effectivement les invendus des supermarchés.
D'accord.
Et comme tu le dis, c'est une pratique très ancienne, puisqu'elle remonte aux prémices de l'agriculture. La pratique du glanage alimentaire, tu vois. Mm-hmm. Et il faudra attendre le Moyen-Âge pour qu'il y ait des règles écrites qui apparaissent sur cette coutume.
Ah, il y a c'est même, quoi les règles alors?
Il y a un édit royal du 2 novembre 1554 du roi Henri II, qui est toujours en vigueur, ce qui est quand même assez amusant, qui indique que le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits-enfants. Alors, c'était effectivement une conception un petit peu restreinte, oui, qui concernait surtout les personnes vulnérables, mm-hmm, et qui relevait du domaine de la charité. Alors aujourd'hui, ça ne se cantonne plus seulement à ce domaine. Donc les pratiques ont beaucoup évolué et sa perception aussi. Et depuis quelques années, comme on parlait des ressourceries,
oui,
il y a un regain à propos du glanage. Donc effectivement, un essor qui semble s'inscrire dans la continuité de mobilisation nationale contre le gaspillage alimentaire et nos politiques de solidarité. Donc c'est à la frontière, en fait, un petit peu comme la ressourcerie, à la frontière du développement durable, protégeons la planète, sauvons, social. Quoi. C'est un mouvement dans les deux sens. Donc ensuite, tu peux la voir partout, à la campagne comme à la ville. Il a des formes variées. Donc là, j'avais trouvé effectivement quatre initiatives qui étaient intéressantes. Je ne sais pas si on va toutes les citer et les développer, mais en tout cas, par exemple, une conserverie solidaire développée depuis 2014 qui s'appelle J'aime Boco, avec B-O-C-O-H, puisqu'il y a un jeu de mots sur le titre, qui a été développée par M. Baptiste Bourdeau depuis 2014 dans la région de Chambéry. Et c'est l'idée de transformer des fruits et légumes disqualifiés en conserve artisanale, donc chutney, confiture, c'est à peu près.
Sympa.
Et ensuite, donc pareil, création d'emplois de personnes en parcours d'insertion, donc pour des personnes qui sont en situation de fragilité. Et après, ils vendent des conserves, soit grâce à un système de souscription, soit grâce à des ventes ponctuelles sur des marchés et événements locaux. Et pour les fruits et légumes, ils s'approvisionnent auprès d'un producteur agricole, d'un supermarché, d'un marché d'intérêt national. Donc d'accord, toujours sur les invendus, les rebuts, enfin on est bien d'accord que c'est ça la matière première.
Oui, d'accord.
Voilà, donc ça...
Ça c'est pas mal, oui.
Ouais, c'est intéressant. Écoute, j'en avais vu un autre, alors il y avait dans la région nantaise, vas-y, il y avait les gaspilleurs, la tente des glaneurs, donc les invendus des marchés récupérés dans la dignité. Donc depuis 2010, là on est quand même, ça date de quelques années... Plusieurs tentes des glaneurs, donc c'est un réseau, ont vu le jour en France, à Lille, Paris, Caen, Grenoble, sont des collectifs qui mettent en place des actions de collecte de fruits et légumes vendus ou destinés au rebut auprès de commerçants présents sur les marchés. Donc ils se servent par l'intermédiaire des commerçants. Donc les produits sont ensuite redistribués gratuitement à des particuliers en situation précaire ou difficile. Toujours le principe de favoriser le lien social. Et la redistribution, bien sûr, s'effectue en fin de marché, pour ne pas porter concurrence à l'activité des vendeurs professionnels.
Très bien, parfait. Écoute, tout ça est assez intéressant et on va en continuer à en parler dans la prochaine partie de l'émission. À tout à l'heure.
Century 21 LD Rambouillet, nous recrutons des hommes ou femmes très motivés.
C'est tout, le reste, on s'en occupe.
Devenez conseiller, conseillère en immobilier.
Pour que votre ambition se traduise concrètement, nous vous proposons un accompagnement quotidien sur le terrain.
La possibilité exclusive au réseau Century 21 de pouvoir bénéficier d'une formation certifiante Bac+3, Bac+4 en partenariat avec l'ESG.
Century 21 LD Rambouillet, appelez-nous au 01 30 88 80 80. Parlons de vous, parlons bien.
D- DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux. Le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Il y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Je voulais revenir sur un ouvrage dont je vous avais déjà parlé, mais que j'aime bien, d'Élise Rousseau, qui s'appelle « Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?» Stop à la surconsommation, ce qui rentre aussi un petit peu dans notre thématique du jour. Et alors, j'ai trouvé un truc qui me plaisait beaucoup, c'est une liste, une petite liste, des choses gratuites. Alors, il y a « Parler à des amis », bon, faire l'amour, même si Mélanie dit que parfois c'est tarifé, mais bon. Manger des mûres dans la forêt, il faut que ce soit la saison. Se promener, chanter, prendre des nouvelles de sa famille, méditer, danser, jouer à cache-cache avec les enfants, promener ou caresser son animal de compagnie, faire une petite sieste ou rêvasser, dire aux gens qu'on les aime, raconter des blagues, masser, se faire masser, etc., etc. Je trouvais ça assez mignon, quoi, les petits gestes gratuits, quoi. Voilà. Il y avait d'autres choses aussi dont on voulait vous parler qui sont peut-être un peu plus sérieuses. C'est tout ce qu'on peut trouver sur Internet, hein, pour faire le troc. Je crois que tu regardais un truc sur les selles, là.
Moi, ce que j'allais dire à nos auditeurs et auditrices, c'est pourquoi pas aussi, si toutefois ils ont du temps, créer une selle. Enfin, ou un sel, je ne sais pas comment on dit, c'est une association, c'est un système d'échange local. Ouais. Et ce sont des associations.
Ouais.
Donc effectivement, pour échanger entre voisins, entre habitants à proximité, des services, des produits, et voilà, donc créer son propre système d'échange à son niveau.
Ouais. Mais je trouve ça très sympathique.
Je crois qu'il y en a plus de 600 qui existent en France aujourd'hui, donc c'est un réseau quand même. Hein.
Ouais.
Et c'est une association qui doit répondre à un certain nombre de comment dirait-on, de règles.
Oui. Ah oui, d'accord. Donc oui, on va voir si on va créer notre sel ensemble.
Exactement. Ou si tu me passeras juste le sel.
c'est très, très, très amusant, ça. Non, parce qu'effectivement, moi j'ai vu en allant sur un site, sur un des sels, qu'effectivement tu peux dire, voilà, j'ai des chaussures en 36 rouges que je voudrais changer contre un pantalon noir, ou je sais pas, enfin, tu vois.
Du troc.
Voilà. Et c'est encore la création de liens auxquels tu tiens énormément, non. Mélanie, je sais que c'est ton credo. Et ben on crée encore du lien entre voisins, on se dit, ben voilà, moi j'ai ça, toi t'as ça, ouais. Faisons affaire.
Exactement.
Hein? Donc voilà. Et puis, on voulait vous dire aussi un tout petit mot sur... tout ce qu'on peut trouver sur les sites pour troquer. Alors, il y a MyTroc, je ne sais pas si tu connais. Ça s'écrit en un seul mot, c'est dommage que ce soit en anglais, mais bon, c'est MyTroc quand même. Et Moutoum, c'est prêt gratuit entre voisins, Moutoum.
Oui,
tu tapes Moutoum, M-E-T-U-M, et tu dis, est-ce qu'on pourrait me prêter une brosse à dents parce que j'ai perdu la mienne ou
Non, mais près d'objets intimes, c'est assez spécialisé comme principe.
Non, non, mais c'est vrai. Par exemple, t'as besoin d'une, je sais pas, d'une perforeuse, d'une, oui. je sais pas quoi.
D'une pour, disqueuse.
Voilà, pour 3 minutes, bah, c'est un peu dommage de l'acheter, quoi. Tu, voilà, tu le prêtes à tes voisins, ou tu demandes à tes voisins s'ils en ont une, et toi, tu prêtes pendant ce temps, je sais pas quoi.
Tout cela nécessite simplement que les gens soient connectés.
C'est ça. En contact, madame.
Voilà, alors d'une manière ou d'une autre, mais on reviendra au lien, au contact.
Au lien, au contact. Effectivement, normalement, entre voisins, on devrait y arriver, non ?
Oui, juste en traversant la rue, hein, s'interpellant, tu veux dire. Sans avoir besoin d'Internet, finalement.
Voilà, c'est ça. On peut faire
ça. Parce que dans les villages, c'est...
Et d'ailleurs, tu voulais parler, toi, de quelque chose à propos de glanage. Tu as oublié de nous raconter cette histoire formidable.
La petite histoire de... d'un ami que je connais qui a récupéré pour sa fille un clavier dans les rues de Rambouillet.
C'est génial.
Clavier
ça.
Qui marche très bien, qui est installé chez lui maintenant. Et oh, écoute, voilà, donc pourquoi pas. Parfois, les gens mettent devant chez eux des choses dont ils n'ont plus besoin. Et puis, il y a souvent
tout à fait. Alors moi, ça arrive aussi parfois qu'on mette des choses voilà, dont on n'a plus besoin et très rapidement, ça disparaît et je trouve ça formidable. Quoi. Mmh. Tu dis, ah ben voilà, ça sert à quelqu'un, c'est génial. Quoi.
Oui, alors t'as eu, tu sais, avec, j'aime bien moi les petites boîtes aux lettres pour les livres.
Ah,
c'est sympa,
oui.
Les petites boîtes.
Ça,
ouais.
C'est génial, ça. Génial. Et ouais. Ça se développe vraiment beaucoup. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de solutions aujourd'hui pour faire de la consommation collaborative.
Et responsable.
Et responsable. Et on vous incite tous, chers amis, auditeurs, auditrices, à faire de même, à nous parler de vos expériences et à nous retrouver, bien évidemment, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Maison Brûle. Et on fait quoi ? Au revoir Damien, au revoir Mélanie.
Au revoir Chantal, au revoir Damien et bon après-midi.
À vous tous, au revoir.
RVE, il est midi.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Savez-vous comment ils dénoncent les inégalités entre les hommes et les femmes à Nantes ? Eh bien, tout simplement en remplissant au moins les verres de bière des hommes. Dans une trentaine de bars, les verres sont remplis aux trois quarts. Une manière de rappeler que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins qu'un homme au même poste. Et à l'occasion de cette journée du droit des femmes, des rassemblements sont prévus un peu partout en France pour dénoncer les inégalités. Des mobilisations auront lieu à Paris, à Strasbourg, à Lyon ou encore à Marseille. Symboliquement, les organisatrices du mouvement demandent aux mamans et aux femmes qui travaillent de cesser le travail à 15h40, heure à laquelle les femmes ne sont plus payées. Ce sont désormais 949 personnes qui sont touchées par le coronavirus en France. 16 personnes sont décédées, dont 12 qui ont plus de 70 ans. Emmanuel Macron, le président, a appelé un nouveau conseil de défense à l'élection.